Les enfants, vous avez le droit finalement de rester avec nous parce que je me suis dit que cette prédication pourrait vous intéresser parce qu'on va répondre à une question importante aujourd'hui. Donc, je vois dans votre regard le bonheur de pouvoir rester avec nous. Et je vais commencer en vous posant la question : comment faites-vous pour reconnaître que quelqu'un est sportif ? T'as dit quoi, là ? Son survêtement. Alors déjà, effectivement, c'est un sportif, il a peut-être, effectivement, il a peut-être un sweat.
Sa carrure.
Sa carrure. Ah, attends, ça dépend. Ça dépend quel sport. Mais bon, voilà, ok, sa carrure, très bien. Si on va prendre l'exemple d'un... On va prendre l'exemple d'un rugbyman. Rugbyman, la France est en train de jouer avec l'Écosse actuellement. À quoi on reconnaît un rugbyman ? Donnez-moi trois raisons pour lesquelles qu'on peut reconnaître un rugbyman dans la rue. Louis.
Il lui manque des dents.
Il lui manque des dents, voilà. Mais ok, d'accord.
Donc, il est assez important.
Assez important, d'accord. Deuxième critère. Evan, comment tu reconnais un rugbyman ? Je sais pas. Alors souvent, il y a un petit détail.
Les oreilles.
Alors c'est quelqu'un qui a dit... Quelqu'un qui a fait du rugby pendant des années et des années, il finit souvent sa carrière comme ça, à force surtout les demi-mêlées là, hein. Ils sont comme ça. Voilà trois critères au minimum pour reconnaître un rugbyman. Et maintenant, comment on fait pour reconnaître un chrétien ? Est-ce qu'il lui manque des dents ? Est-ce qu'il faut avoir les oreilles en chou-fleur pour être chrétien ? À quoi on reconnaît un chrétien ? Si on regarde les statistiques, 50% des Français se disent chrétiens. Donc sur ce critère-là, c'est assez facile. On en prend un sur deux et on a à peu près juste. Est-ce que vous pensez, les enfants, qu'il suffit d'être un Français sur deux pour être chrétien ? Ça se saurait, hein ? Et cette question, elle n'est pas nouvelle. Elle se pose aujourd'hui, mais dès le 1er siècle, cette question se posait. Quand l'Église a commencé, il n'y avait pas encore véritablement de Bible. Il n'y avait pas de texte de référence, de confession de foi comme on fait aujourd'hui. Et il y avait déjà des hérésies, des faux docteurs et des faux chrétiens. Et l'apôtre Jean veut encourager ses lecteurs à savoir à peu près se retrouver entre tous ceux qui se disent être disciples de Christ. Et surtout, il les encourage à tenir ferme eux-mêmes pour être chrétiens. Ok, les autres, mais vous ? Comment faire pour rester ferme pour être chrétien ? Comment vivre à la lumière de Dieu ? Et Jean va donner 2-3 indices dans sa première épître. Donc on va lire dans 1 Jean 1, et il va donner 3 critères, 3 indices, 3 ingrédients, vous appelez ça comme vous voulez, pour reconnaître non pas un rugbyman, mais pour reconnaître un chrétien. Je lis 1 Jean 1 à partir du verset 5 pour commencer. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et ne mettons pas la vérité en pratique. Excusez-moi. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà, en quelque sorte, un peu l'introduction que Jean donne à cette grande question. Et ensuite, il va donner 3 pistes, 3 ingrédients, 3 critères pour reconnaître un chrétien, pour être un chrétien, qui marche réellement à la lumière de Dieu. Et c'est évidemment sur ces 3 critères-là que j'ai envie de vous encourager ce matin à toujours plus être. Les 3 ingrédients, ils vont être faciles à retenir. Les enfants, ça, si vous voulez noter, je parle de 3 ingrédients faciles à retenir. Je pense que le premier, ça va être une vie de repentance, une vie d'obéissance et une vie d'amour fraternel. Et ça va être les 3 ingrédients qu'on va regarder ce soir. Premier ingrédient, donc une vie de repentance, et je lis les 4 versets suivants, à partir de 1 Jean, donc 1, 8, jusqu'à 2, 2. Et voilà le premier critère, le premier ingrédient que nous donne Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que ne vous péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qui a dit que les chrétiens étaient des gens parfaits? Qui a dit que les chrétiens étaient des gens parfaits? À la vie bien rangée, à la vie nickel, c'est une erreur. C'est une erreur de penser que les chrétiens sont des gens parfaits. Et alors peut-être que nous, nous ne pensons pas que les chrétiens sont parfaits, mais malgré tout, on est déçu quand un chrétien nous blesse. Au fond de nous, on va dire, et en plus, il se dit chrétien. Et en plus, il se dit chrétien. Comme si au fond de nous, on se disait que non, un chrétien ne devrait pas pécher, devrait être parfait. On a un peu cette idée au fond de nous. Mais dans ce texte, on voit que les chrétiens ne sont pas parfaits parce qu'ils doivent demander pardon. Les chrétiens doivent demander pardon, donc c'est qu'ils ne sont pas parfaits. S'ils étaient parfaits, l'apôtre Jean ne leur demanderait pas comment demander pardon. Vous comprenez le raisonnement ? Soyons honnêtes, personne n'est parfait, pas même les chrétiens. Plusieurs réactions possibles devant ça. Première réaction, tout nier en bloc. Non, je n'ai pas de péché. C'est une illusion. D'ailleurs, l'apôtre Jean décourage et dit arrêtez de vous dire que vous n'avez pas de péché. Deuxième chose, être déprimé, être découragé. La dépression, oh, je suis pécheur, j'y peux rien. Troisième option, se demander pardon à Dieu. Et c'est évidemment ce à quoi encourage l'apôtre Jean pour encourager les chrétiens auxquels il écrit. Est-ce que c'est utile de demander pardon à quelqu'un quand on l'a blessé ou quand on lui a fait peur, quand on lui a fait mal? Est-ce que c'est toujours utile? Ce n'est utile que si celui qui est en face de nous veut bien entendre pardon. Si je suis un chasseur en face d'un tigre, que j'ai essayé de le tuer, que j'ai raté, est-ce que c'est utile désormais d'essayer de lui demander pardon? Je ne pense pas qu'il entende grand-chose. Je pense que c'est complètement inutile de chercher à demander pardon devant un tigre. Est-ce que devant Dieu, ça sert de demander pardon? Parce que si Dieu ne veut pas demander pardon, alors ça ne sert strictement à rien de gâcher quelques millilitres de salive à lui demander pardon. Mais non, voilà, Jean ici nous montre comment Dieu, il est fidèle et juste pour nous purifier de tout mal et de toute iniquité. C'est ce que nous avons lu. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. De tout mal, de toute iniquité. Il n'y a pas de petit astérix où en bas on dirait tout mal et toute iniquité sauf l'adultère, sauf le mensonge, sauf le vol, sauf la pornographie, sauf... Comme s'il y avait une liste de péchés qui ne seraient pas pardonnables. Ici, il n'y a pas d'astérix en bas avec une liste de choses qui ne seraient pas pardonnables, sur lesquelles on ne pourrait pas demander pardon à Dieu. Tout est pardonnable. Et par quel miracle? Alors ça semble magique de nouveau, ça semble magique, mais voilà, le verset 2 nous le dit. Jésus-Christ est lui-même la victime expiatoire. C'est-à-dire que celui qui est notre défenseur, la victime expiatoire, vous l'avez vu peut-être les enfants dans les leçons, c'est les fameuses victimes qu'on donnait à la place d'eux. Et c'est ce qu'on a vu en Galates plusieurs fois, dans Galates 2, 3, 4, Christ a été condamné pour que nous soyons purifiés. C'est ce que nous avons vu plusieurs fois, et encore une fois, basé sur cette conviction, Jean peut dire, oui, tout est pardonnable si nous reconnaissons nos péchés, puisque Dieu est fidèle et juste. Ça marche, c'est suffisant, ça marche pour toute la terre. Il le dit même, non pas seulement pour nos péchés, mais ceux de toute la terre. Alors un chrétien, premier critère pour reconnaître un chrétien et non pas un rugbyman. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait, mais c'est quelqu'un qui a su se repentir et qui continue de savoir le faire autant de fois que nécessaire. Pourquoi il le peut ? Parce que le sacrifice de Christ est pleinement suffisant. Alors, est-ce que c'est un forfait illimité pour le pardon ? Est-ce que dans ces cas-là, on a le droit à un forfait limité, un peu comme un forfait de téléphone où on compte même plus les gigaoctets tellement qu'il y en a ? Est-ce que face à Dieu, on a un forfait illimité de pardon ? Sept fois, 77 fois ? Fois 7 ? Fois 7, fois 7, fois 77 ? Dans un sens, oui, on a un forfait illimité de pardon face à Dieu. Mais en même temps, est-ce que c'est un prétexte pour en abuser ? Non, vous comprenez la tension. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'il dit, Jean chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris cela, pas pour que vous en profitiez pour plus pécher, mais que vous, pour qu'au contraire, vous ne péchiez pas. » Chapitre, verset 1. C'est comme la corde d'escalade. Qui a déjà fait de l'escalade sur la colline du Grenouillet ? Bon, les trois chevassus, j'ai l'impression qu'il y a un club d'escalade voilà. Quand on fait de l'escalade, on a une corde d'escalade qui nous assure, qui nous protège. Mais est-ce que c'est pour autant, puisqu'on a une corde, on va en profiter pour se jeter dans le vide toutes les 3 secondes et s'amuser, puisque sous prétexte qu'on a une corde ? Non, au contraire, la corde est là. Évidemment, s'il faut chuter 7 fois, 77 fois, évidemment que la corde saura nous retenir. Mais si elle est là, c'est pas pour qu'on s'amuse à se jeter dans le vide à chaque fois, n'est-ce pas ? Voilà un autre critère. Le premier critère est non seulement une vie de repentance, mais deuxième critère que Jean va donner, c'est aussi une vie d'obéissance. Se repentir, mais également, après, obéir. Et c'est ma deuxième partie, un autre critère pour reconnaître un chrétien qui marche à la lumière de Dieu, pour être soi-même, pour être vous-même, un chrétien, une chrétienne qui marche à la lumière de Dieu. Et je continue avec les versets 3 à 6. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Et celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il l'a lui-même vécu. Dans les films, les héros sont parfois ceux qui savent tenir parole, qui restent fidèles malgré l'adversité ou malgré la tentation de trahir. Alors des fois, les héros n'ont pas le bon rôle, des fois ils sont animés par de la vengeance, mais parfois, dans quelques films, les héros sont animés par l'envie de rester fidèles à la parole qu'ils auraient donnée à un roi, à un empereur ou je ne sais qui. Et ici, il s'agit de garder la parole également, de garder la parole, les commandements de Christ, de se souvenir, de garder ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous demande, ce qu'il attend de nous. Un chrétien, c'est un disciple. Un disciple, ça veut dire quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui apprend. Si les enfants, quand vous faites l'escalade au Grenouillet, le professeur vous apprend des choses, c'est bien pour que la fois d'après, vous puissiez mettre en pratique, vous puissiez continuer à écouter les conseils qu'il vous a donnés. C'est pas pour continuer à en faire qu'à votre tête ou à tenter quelque chose de complètement loufoque. À l'école, c'est la même chose. On apprend. Comment vous apprenez ? Alors des fois, c'est un peu du par cœur, vous me direz. Mais comment vous apprenez ? C'est quand vous gardez, vous mémorisez la parole du maître et vous êtes censé, normalement, la fois d'après, vous en souvenir. Vous êtes censé, la fois d'après, se souvenir de ce qui a été dit. Ou sinon, le maître, c'est qu'il a servi à rien. Retenir ce qui a été dit. Est-ce que nous sommes des disciples ? Est-ce que nous sommes des disciples qui voulons apprendre de notre maître ? Est-ce que nous avons soif d'apprendre de notre maître de lui ressembler, de garder et de chérir sa parole. Est-ce que c'est ce que nous voulons faire ? Quand il s'agit de faire des choix, quand il s'agit de faire des priorités dans votre vie, est-ce que vous voulez chérir sa parole ? Quand il s'agit de gérer son argent, quand il s'agit de vous engager dans une relation avec quelqu'un, quand il s'agit de faire face à une tentation, est-ce qu'à ce moment-là, nous sommes les uns les autres des disciples ? Nous sommes les uns les autres des disciples qui veulent garder les commandements de Dieu. Ce passage fait apparaître un autre aspect, celui de garder la parole. Garder, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire garder, c'est dans le temps. Garder quelqu'un ou garder quelque chose, ça ne veut pas dire 30 secondes. Si vous gardez quelque chose, mais au bout de 30 secondes, vous l'avez déjà perdu, est-ce que c'est ça garder un secret ? Est-ce que c'est ça garder quelque chose ? Que Dieu nous donne, que Dieu vous donne tous de rester fidèles, de lui rester longtemps fidèles. Et malheureusement, et c'est un constat dans nos églises, trop de personnes quittent la foi après des années. Et ici même à Cavaillon, si on regarde qui a été à Cavaillon sur les 10-20 dernières années, malheureusement, c'est un constat, trop de personnes quittent la foi après des années. C'est un risque, et que Dieu nous préserve de ce risque et de tomber. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit Jésus en Matthieu 24. Gardons dans le temps, gardons, durons, persévérons, gardons les commandements de Christ. Le troisième ingrédient pour une vie à la lumière de Dieu, la troisième clé que nous donne Jean pour nous aider, et justement une clé qui va nous aider à tenir dans le temps. Une clé qui va nous aider à rester fidèles à Dieu jusqu'au bout. Cette clé, c'est la suite et c'est l'amour fraternel. C'est les autres, c'est l'Église, c'est les frères, c'est les sœurs. Et je lis à partir du verset 9 à 11. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère ou sa sœur est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière et il n'y a rien en lui qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère et est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Voilà la clé qui va vous permettre, qui va nous permettre de persévérer, de durer, de garder les commandements, c'est l'amour fraternel. C'est l'Église, c'est les autres, c'est les frères, c'est les sœurs. Et je crois foncièrement qu'il est impossible pour un chrétien de ne pas aimer ses frères et ses sœurs dans la foi, de rester loin d'entre eux. Alors je ne parle pas des chrétiens persécutés dont Jean nous a parlé en introduction, au fin fond de la Corée du Nord. Évidemment que là, le contexte est différent. Mais je parle d'ici, dans un pays où on a tout le libre accès. Imaginez un cycliste, puisqu'on parle de sport depuis le début, imaginez un cycliste qui dirait « Ouais, moi j'aime beaucoup le vélo et je fais du vélo tout seul. » Est-ce que ça vous irait comme réponse ? Oui ? Oui ? Par contre, si quelqu'un vous dit « J'adore le rugby, je suis un rugbyman, mais par contre je pratique tout seul. » Ça vous choque pas ? Vous l'imaginez tout seul en train de courir au grenouillet et de faire des plaquages et de se faire des mêlées tout seul ? Non, le rugby est un sport collectif. Quelqu'un qui est un rugbyman qui dirait « Moi, je joue au rugby tout seul » et ça marche pas. Il en est la même chose pour la foi. Et j'ose affirmer que la foi est un sport collectif dans un sens. Ça se joue à plusieurs, ça se vit à plusieurs. Même si à la base, c'est évidemment nous avec Dieu individuellement. Mais après, c'est un sport, c'est une vie, c'est quelque chose qui se joue à plusieurs. Pas comme le vélo, pas comme je ne sais pas quel sport qu'on pourrait faire tout seul dans son coin. La foi est un sport collectif. Et une vie à la lumière de Dieu se caractérise par une vie d'amour fraternel les uns envers les autres. Alors concrètement, comment faire pour aimer les frères et les sœurs? Comment on peut faire? Déjà, on peut commencer en nous pardonnant les uns les autres. Puisqu'on n'est pas parfait, on l'a vu. Puisqu'on n'est pas parfait, il va falloir qu'on se pardonne. Combien de fois? 7 fois, 77 fois. Donc ça, c'est évidemment la première chose à faire pour être ensemble, pour ne pas tomber dans cette haine de notre frère dont nous met en garde Jean. Savoir pardonner 7 fois, 77 fois. La deuxième manière de s'aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une belle parole, mais comment mettre en pratique? C'est une anecdote sur Victor Hugo qui nous la donne. Victor Hugo, à l'époque, il n'y avait évidemment pas d'ordinateur, et donc il se mettait son texte, et c'était un imprimeur qui après mettait en impression le livre. Et un jour, il y a eu une coquille, l'imprimeur s'est trompé dans une lettre, il avait mis, au lieu de mettre « aimons-nous les uns les autres », il avait remplacé le « M » par un « D », et l'imprimeur s'était trompé, et il avait mis « aidons-nous les uns les autres ». Au lieu de « aimons-nous », il avait mis « aidons-nous ». Et constatant la coquille, Victor Hugo a dit « non, mais finalement, elle est très bien ». Ce sont deux bons synonymes. Aider, s'aimer les uns les autres, s'aider les uns les autres. Et finalement, la coquille est restée dans le texte imprimé, même si ce n'était pas... Mais vous voyez, donc c'était une erreur, une belle erreur. Et je pense que voilà, aimer, ça veut dire... Et aider, ça veut dire s'aider les uns les autres. Alors, je pense qu'on a des beaux exemples ici à Cavaillon. Alors, pas forcément visible, la manière dont on peut s'aider les uns les autres, dont on peut essayer d'être solidaire dans les galères des uns, dans les maladies des autres, dans les difficultés des uns et des autres. Voilà, je pense qu'il y a des beaux exemples, pas forcément visibles, mais il nous faut persévérer et il nous faut continuer à nous aimer et à nous aider les uns les autres. Voilà comment nous tiendrons et voilà combien nous persévérerons. 1 Jean 3,16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. 1 Jean 3,16. Tout le monde connaît Jean 3,16, mais ça c'est 1 Jean 3,16. Voilà, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. En conclusion, comment donc reconnaître, non pas un rugbyman, et ses dents cassées et ses oreilles en chou-fleur, mais comment reconnaître un chrétien? Et plus important, comment être soi-même un chrétien vivant, un chrétien qui se reconnaît, un chrétien véritable? Donc Jean nous a donné 3 pistes, 3 ingrédients, 3 critères, vous utilisez le mot que vous voulez. Une vie d'obéissance, une vie de repentance, une vie d'obéissance et une vie marquée, animée, par l'amour fraternel. Et la question que je vous pose, c'est cette semaine, sur quels critères avez-vous envie de progresser? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre cette semaine? Sur quels critères vous avez envie de progresser? Tout comme les rugbyman, puisque c'est l'image du jour, à chaque entraînement, ils ne révisent pas tout l'intégralité des tactiques. Ils mettent l'accent, l'espace d'un entraînement, l'espace d'une semaine, sur un certain type d'action. Et vous, cette semaine, sur quels critères, sur quels ingrédients avez-vous envie, avez-vous besoin de progresser le plus? Est-ce que vous avez besoin de vous repentir et de demander pardon sur quelque chose qui traînerait et repartir à zéro sur un sujet? Est-ce que c'est ça dont vous avez besoin cette semaine? Priez, demandez à Dieu, il est fidèle et juste, pour vous pardonner de tout mal et de toute iniquité. Deuxième possibilité, est-ce que cette semaine vous avez envie de progresser sur votre obéissance à Dieu? Est-ce que vous avez un choix à faire pour garder sa parole, pour connaître sa parole, pour lire sa parole, pour obéir et refuser telle tentation? Est-ce que c'est là-dessus dont vous avez besoin de progresser cette semaine? De vous entraîner, de progresser? Peut-être. prier. Est-ce que c'est sur le critère de l'amour fraternel que vous avez besoin le plus cette semaine de progresser? Est-ce qu'il vous faut aller visiter tel frère, telle sœur, prier pour telle personne, pardonner telle personne, aider avec un D et pas un M telle personne? Est-ce que c'est ça qu'il vous faut cette semaine? Vous avez le choix. Une vie de repentance, une vie d'obéissance, une vie d'amour fraternel. Et ma prière pour vous, et c'est mes derniers mots, c'est que le plus grand nombre puisse reconnaître en vous cette semaine, non pas des rugbyman, non pas des cyclistes, non pas des boxeurs, non pas je ne sais quel sportif, mais qui puisse reconnaître des véritables chrétiens qui marchent à la lumière de Dieu. C'est ma prière pour moi-même et c'est ma prière pour vous. Amen. Et je vous invite justement à prier.